Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être en direct du lundi au vendredi de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, dès 15h, il se tient prêt à mes côtés pour nous faire du bien à tous. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Au programme du jour, dans notre grand dossier, nous vous proposons un décryptage sur l'aromathérapie. Comment bien utiliser les huiles essentielles? D'ailleurs, dans quelles indications peuvent-elles réellement nous aider? Vous verrez que si elles peuvent soulager certains maux physiques, selon notre invité du jour, elles sont également capables de nous accompagner pour certains troubles psychologiques. Et donc pour parler de tout cela, nous recevrons en studio le docteur Françoise Couic-Marinier. Elle est docteure en pharmacie spécialisée dans les huiles essentielles et la co-autrice du livre Aromathérapie qui va sortir prochainement aux éditions Terre Vivante. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, le docteur Jimmy Mohamed nous parlera du phimosis. Quand le prépuce au niveau du gland est trop serré, c'est un problème très fréquent en fait chez les petits garçons et bien souvent cela disparaît avant l'âge de 5 ans. Mais quand ce n'est pas le cas, que peut-on faire? Eh bien, Jimmy nous dira tout. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons, comme tous les jours, la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle répondra à un jeune homme qui se pose 1000 questions, qui est très inquiet avant sa première fois.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer cette émission par cette question d'Alissa. Écoutons-la.
Bonjour Jimmy, bonjour Mélanie. En fait, moi, depuis mon adolescence, j'ai pas trop de chance, j'ai de l'acné sévère. Donc j'ai déjà consulté des dermatos qui m'ont prescrit des antibiotiques et des pommades, mais ça ne passe pas. En discutant avec une amie, elle m'a fait savoir que l'alimentation pouvait jouer un rôle sur l'acné. Je voulais savoir si c'était vrai et puis quel régime anti-acné je dois choisir si c'est le cas.
Alors pour vous répondre, Alissa, nous avons interrogé une spécialiste. Pour vous, écoutons les précisions de la dermatologue Nadine Pomarède.
L'acné est un facteur aujourd'hui qui peut être impliqué dans des poussées d'acné. Maintenant, ça ne peut pas être le seul. Il y a d'autres facteurs qui interviennent dans les poussées d'acné, le stress, pour les femmes, des variations hormonales. Enfin bref, il y a beaucoup d'autres facteurs. Mais en tous les cas, l'alimentation aujourd'hui est aussi mise en cause dans la survenue de poussées de boutons. Et en fait, ce sont surtout les sucres rapides qui sont mis en cause, c'est-à-dire tout ce qui est bien sûr friandises, chocolat, gâteaux, mais aussi des sodas, y compris ceux qui sont sans sucre, également le pain blanc ou le riz blanc. Donc comment ça marche en fait? C'est que les sucres rapides vont stimuler la fabrication de sébum au niveau de la glande sébacée et donc il va y avoir augmentation de cette sécrétion, rétention éventuelle de cette sécrétion de sébum, donc des microkystes qui peuvent s'inflammer et provoquer des boutons inflammatoires.
Voilà, c'était le docteur Nadine Pomarède, au micro de Valentin Piovesan. Alors Jimmy, on va prendre tout de suite une deuxième question, celle que nous a laissée Lorenzo pour vous, il vit près d'Amiens, écoutez bien.
Bonjour Mélanie et Jimmy, j'ai une petite question pour vous. Dans ma commune, ils organisent un don du sang ce week-end et je voudrais bien donner le mien. Mais du coup, je ne connais pas les conditions exactes. Est-ce que vous pourriez m'éclairer? Merci pour votre réponse. Bonne émission.
Jimmy, alors, un futur donneur qui s'interroge donc sur son premier don. Nous sommes évidemment ravis de vous renseigner, Lorenzo, parce que Jimmy, d'abord, il faut le rappeler, les besoins sont toujours très, très importants.
Ils sont importants, ils sont constants. Chaque année, c'est 1 million de malades qui vont être soignés, notamment grâce au don du sang. Et du coup, pour satisfaire les besoins, il faut au moins 10 000 dons de sang par jour pour répondre justement à ces besoins.
Alors, qui j'aide d'ailleurs quand je fais un don de sang?
Eh bien, dans une grande majorité du temps, des cas, dans 50%, vous avez des patients qui vont être transfusés atteints d'un cancer ou de maladie du sang. Mais le don de sang ne va pas simplement sauver ces vies-là. Ça va être aussi des accidents de la route, une femme qui va avoir un accouchement difficile avec une hémorragie, la délivrance. Ça peut être aussi un enfant qui va être atteint d'une leucémie. Quoi qu'il en soit, tous les produits sanguins sont transfusés dans un contexte d'urgence vitale ou relative, notamment lorsque vous faites une anémie chronique, raison pour laquelle vous avez peut-être parfois besoin d'une transfusion.
Alors, pour répondre précisément à Lorenzo, donc qui est prêt là, hein, il le dit, à faire ce premier don de sang, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut venir avec des documents particuliers? Par exemple, est-ce qu'il faut avoir sur soi la fameuse carte de groupe sanguin?
Non, si vous ne l'avez pas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir quasiment sans aucun document. La seule chose qu'on va vous demander, c'est une pièce d'identité et si possible, d'avoir avec vous une adresse postale pour éventuellement vous transmettre des informations ou des documents de l'établissement français du sang. Et donc, sans carte de groupe, vous pouvez y aller. On vous la fera de toute façon. Donc c'est un peu comme dans un fast-food, venez comme vous êtes.
Très bien, allez, on y va comme on est. Pour les aspects, ça c'était les aspects, on va dire, administratifs, mais d'un point de vue médical, physiologique en tout cas, c'est quoi les critères pour pouvoir donner son sang ?
Très peu de critères, c'est facile. Ça veut dire que quasiment tout le monde peut donner, avoir entre 18 et 70 ans, peser plus de 50 kilos. Et puis évidemment,
ça,
vous avez...
Ah, ça c'est dommage. Non, c'est une blague.
Évidemment, Mélanie, les gens ne sont pas dupes. Mais en tout cas, il y a un petit entretien médical pour être sûr qu'il n'y a pas de contre-indication à la transfusion et au don surtout de sang. À ce moment-là, on vérifie que vous n'avez pas eu d'antibiotiques récemment, que vous n'avez pas certains traitements ou maladies qui peuvent vous exclure du don. Et puis à ce moment-là, une fois qu'on a fait cette formalité, vous pouvez donner.
Et on peut donner à quel rythme ? Dans le cas de Lorenzo, il s'apprête à faire le premier. Ensuite, il pourra redonner combien de fois par an, par exemple ?
Alors, on rappelle, en France, le don, il est anonyme et gratuit. Donc, c'est quelque chose de vraiment positif puisque vous faites vraiment dans le but d'aider les gens et on a besoin de ces personnes-là. Alors, les hommes peuvent donner jusqu'à 6 fois par an et les femmes, c'est jusqu'à 4 fois par an, à condition de respecter 8 semaines entre chaque don.
Très bien, c'était très clair. Merci beaucoup, Jimmy. Et j'en profite pour rappeler que pour donner ou trouver le point de collecte le plus proche de chez vous, de votre lieu de travail aussi, hein, si vous préférez, c'est simple. Vous allez sur www.dondesang.efs.santé.fr. Et puis pour nous laisser vos questions ici à Europe 1, question santé, bien-être, vous le savez, ça se passe au 39-21, 50 centimes d'euros la minute.
Europe 1.
Dans un instant, notre dossier du jour avec notre invité, c'est le docteur François Couic, marinier, experte des huiles essentielles, qui vient nous présenter son livre Aromathérapie, coécrit avec un psychologue, car oui, les huiles essentielles pourraient accompagner de nombreux troubles et émotions du quotidien. On y vient très vite, alors restez bien avec nous sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Et donc tout de suite, notre invité est là en studio avec nous pour ce dossier du jour. C'est vous, docteur Françoise Couic-Marinier. Bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy, bonjour à tous les auditeurs.
Bon, vous êtes docteur en pharmacie, spécialisée dans les huiles essentielles et vous êtes également la co-autrice donc, du livre L'Aromathérapie qui va paraître aux éditions Terre Vivante, un livre qui sortira le 16 mars. Et dans ce livre, on parle donc des huiles essentielles, on l'a compris, de la méditation et de l'hypnose aussi. Et donc, vous êtes finalement, vous, spécialiste, vous êtes spécialisée dans quelque chose qui n'était pas du tout au programme de vos études.
Hein. Tout à fait, même si j'ai fait des études de pharmacie à Limoges pour travailler dans les plantes, voire même enseigner ça, donc finalement c'est ce que je fais. Et justement l'aromathérapie, c'est une petite partie de la phytothérapie.
Et depuis, est-ce que la situation a évolué ? C'est quelque chose qu'on n'enseignait pas forcément, mais pourquoi tout d'un coup on s'y intéresse un peu plus, notamment en cette période ?
Alors oui, ça a beaucoup évolué, c'est-à-dire que si on regarde au niveau de toutes les facultés de médecine ou de pharmacie, on a près de 24 diplômes de phytoaromathérapie en France, et dont 3 diplômes d'aromathérapie, dont un clinique que j'ai cofondé. J'interviens dans les 3 DU d'aromathérapie, donc maintenant on forme aussi des hospitaliers, des cliniciens, donc des médecins, des infirmières, des kinés, qui vont justement relayer tout ça. Donc ça a beaucoup, beaucoup évolué en quelques années.
Et si ça a évolué, c'est parce que vous dites qu'on est rentré dans la santé active. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Alors la santé active, justement, c'est que de nombreux cliniciens se retrouvent parfois à ce qu'on appelle en impasse thérapeutique, dans la douleur par exemple, dans certaines plaies, dans ces prises en charge ou des symptômes comme par exemple le syndrome de Raynaud, toutes ces extrémités froides qu'on a et qu'on sait peu soigner. Il va y avoir aussi des médecines complémentaires, donc ce seront aussi grâce à des grands pionniers comme le docteur Christophe André qui a introduit la méditation à l'hôpital. Eh bien, on sait maintenant, d'ailleurs l'aromathérapie comme la méditation sont considérées comme des médecines complémentaires par l'OMS.
Et justement, quand vous parlez de médecine, ça veut dire qu'il y a des études qui valident ce qu'on dit, puisque lorsqu'on parle d'aromathérapie, si je me mets quelques années en arrière, je me dis que c'est un truc un peu folklorique, c'est des remèdes de grand-mère, et que du coup, bah, c'est pas validé, et que bon, on fait ça, mais on n'y croit pas trop.
Ça commence, on a effectivement de grandes études, alors pas forcément beaucoup en France, mais le monde entier cherche. Je vais citer l'huile essentielle de lavande officinale, on a même un médicament qui est sorti en Allemagne, en Suisse, qui a été testé versus des injections de diazépam, donc de Valium, ou de lorazépam, de Temesta, et qui a montré une efficacité identique, voire supérieure parfois, et on sait exactement comment ça marche.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer simplement ce qu'est précisément l'aromathérapie ?
Alors l'aromathérapie, c'est justement l'utilisation d'une partie de plantes, c'est à peu près 10% du règne végétal, c'est les plantes les plus ingénieuses, on va dire, qui fabriquent justement ces essences naturellement. On va les obtenir soit par distillation à la vapeur d'eau, soit en expressant le zeste des agrumes, hein, le citron, quand vous pelez une orange, vous sentez cette odeur.
C'est très agréable.
Voilà, une orange, c'est à peu près 30 gouttes d'huile essentielle sur sa peau. Et donc on va utiliser ces produits-là qui sont très concentrés, puisque une peau d'orange contient à peu près 30 gouttes d'huile essentielle et on va pouvoir les utiliser de manière très thérapeutique. Alors on a deux écoles d'aromathérapie dans le monde. Nous, on est dans l'aromathérapie française où on est finalement très proche de l'allopathie et des bienfaits des huiles essentielles.
Et donc on se rapproche quasiment d'un médicament. En quoi ça peut nous aider dans la population générale et comment ça peut agir sur le cerveau, notamment ces huiles essentielles ?
Alors, il va y avoir deux actions très différentes. Là, par exemple, j'ai une solution hydroalcoolique enrichie en huile essentielle. Mais c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que vous avez la solution hydroalcoolique qui va faire son œuvre virucide. Et on va avoir aussi donc, l'action pharmacologique justement des huiles essentielles, comme la lavande que je citais, qui se fixe sur les récepteurs à l'adénosine 2, qui sont les récepteurs benzodiazépines, donc très pharmaco. Et on va avoir un autre aspect, qui est l'aspect olfactif, qui est à ne pas négliger. C'est même le plus puissant, c'est le sens qui est fini à 3 mois de grossesse chez le nourrisson. Et on a eu un prix Nobel de médecine physiologie en 2004 qui a montré que quand on sent une odeur, on ne l'oublie jamais. Donc ça, c'est important. Quelqu'un qui n'aime pas la lavande, même si elle est efficace pharmacologiquement, il sera dégoûté par cette odeur.
Oui, c'est très intéressant. Ça remonte à très loin, je crois, comme pratique, l'aromathérapie. Même au temps des momies, non ? C'est ça ? Aussi loin que ça, c'est ça ?
Voilà, alors on ne distillait pas d'huile essentielle, mais on utilisait propriétés antiseptiques des huiles essentielles, comme les aborigènes en Australie avec l'arbre à thé, où justement on conservait, on peut encore se faire momifier, c'est très très cher, mais on utilise justement les propriétés antiseptiques de ces huiles essentielles, la myrrhe, l'encens, on connaît ça aussi en religion, hein, c'est très connu, justement pour embaumer, pour modifier un état de conscience aussi parfois, on en parlera.
Sans parler des momies évidemment, mais comment est-ce qu'on utilise une huile essentielle ? Il y a différentes façons de les utiliser, il y a plusieurs mode d'administration ?
Tout à fait. Alors, ça dépend où on utilise les huiles essentielles. L'école anglaise va juste utiliser sous forme de diffusion, avec des diffuseurs, par exemple, comme ça, soit à la vapeur d'eau, soit avec de l'air pulsé. Pour l'hôpital, par exemple, c'est très agréable, ça change une ambiance. Ça peut être aussi des stick inhalers. On a tous connu un jour, quand on avait le nez bouché, ça existe.
J'avais bien donné la marque, mais le truc qui sent la menthe qu'on met dans le nez. Quoi,
ah oui,
exactement.
Ça débouche bien, hein, c'est la vie.
Tout à fait. Ils l'utilisent aussi en massage, très dilué, en toucher massage, par exemple, à l'hôpital. Et puis nous, en école française, on a tous connu un jour des suppositoires aux huiles essentielles quand on avait une bronchite. Ah oui, donc là, vrai. On n'en reparlera pas, hein, mais on utilise de la voie orale, notamment dans tout ce qui va être antibiothérapie. C'est des capsules hein, sous forme de blister, comme on va utiliser un médicament, par exemple.
C'est intéressant. Mais comment on choisit par contre la forme qui va aller ? Je sais pas, moi, imaginons, je dis n'importe quoi, j'ai un gros rhume, il vaut mieux que je choisisse la voie rectale, la voie orale.
Un suppôt pour le rhume, c'est un peu dur. Voilà, suppôt pour le rhume, on a du mal à se dire. Le chemin est un peu long.
Quelle
quand même.
Voie pour quel mot, quoi ? C'est ça, quelle voie d'administration ?
Pourtant, c'est une voie royale, justement, parce que ça.
Vous savez,
la voie royale.
Mais la voie rectale est très intéressante.
La voie royale, c'est la voie rectale, et je sais pas si l'inverse est vrai, mais bon.
Non, on est d'accord. D'ailleurs, en parlant de Rennes, c'est pas connu. Justement outre-Manche, hein, parce que ça ils ne connaissent pas, ils les mettent dans le nez ou autre, c'est terrible. Donc effectivement, comment ça peut être utilisé justement par rapport à ça, et
on choisit la voie en fonction du mot ou en fonction de la préférence de
alors
la personne.
On peut sentir parce que notre nez ne nous trompe pas, il est tellement omniscient qu'il ne nous trompe pas. Donc si on sent de l'huile essentielle de fenouil, ça sent l'anis, donc ça se mange. Si on sent de la Gaultérie, ça sent vraiment le sportif ou le vestiaire de sportif, ça ne se mange pas. Mais là aussi, il faut s'adresser à des spécialistes, des médecins qui sont formés, qui vont prescrire, ou des pharmaciens.
Très bien, docteur Couc-Marinier, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous.
Europe 1.
Dans ce rendez-vous, on va passer à la pratique à présent. Quelles sont les différentes huiles essentielles que l'on peut utiliser ? De quelle façon précisément faut-il les utiliser en fonction des maux que l'on a, que l'on veut soulager ? On va tout vous expliquer. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invitée, elle est toujours en studio avec nous, c'est vous, docteur Françoise Couic-Marinier. Vous êtes docteur en pharmacie, spécialisée dans les huiles essentielles et la co-autrice du livre L'aromathérapie aux éditions Terre Vivante. Alors, on parle d'huile essentielle hein, depuis tout à l'heure et justement, on va quand même dire quelque chose qui est important. Ce sont quand même des produits qu'il faut utiliser avec prudence. Vous le dites, hein, il ne faut pas faire n'importe quoi et c'est quand même interdit à une certaine population. Lesquelles ? Laquelle ?
Alors effectivement, premièrement, on n'est pas là pour faire un diagnostic. Hein. Alors ce livre, ça peut être une première approche justement quand quelqu'un n'ose pas passer la porte d'un psychologue ou d'un psychiatre. Néanmoins, ça ne remplace ni un diagnostic, ni une séance, et ni une consultation. Ça, c'est la première chose. Ensuite, si elles sont très efficaces, c'est aussi parce qu'elles peuvent être aussi très toxiques. Donc on fera très attention chez la femme enceinte ou allaitante, on le déconseillera complètement sans conseils médicaux ou pharmaceutiques. Chez les épileptiques, chez les asthmatiques, lorsqu'on va respirer en tout cas, et chez les enfants de moins de 6 ans sans précaution. Donc là aussi, c'est très important.
Et puis d'un autre côté, moi je préfère, si c'est possible, de prescrire des huiles essentielles plutôt que des benzodiazépines, des somnifères. Et donc si on s'intéresse aux huiles essentielles, notamment au citron, ça aurait des propriétés anti-stress ?
Oui. Alors, l'huile essentielle de citron, comme tous les agrumes, alors c'est facile, la chimie végétale contient du limonène. Donc, voyons d'où ça a été tiré. Ce limonène est anti-stress, voire antidépresseur. C'est des études qui ont été menées même chez les humains. On en a d'autres, effectivement. Je citais la lavande officinale, où c'est effectivement très documenté. Donc, ce citron, on le connaît très, très bien dans notre vie quotidienne, dans l'alimentation, mais aussi en cuisine, quand on prend le zeste. Donc, c'est l'huile essentielle. On connaît ça aussi pour resserrer les écailles des cheveux ou blanchir les dents, mais on a un effet, ne serait-ce qu'en diffusion. On change aussi une ambiance olfactive dans un EHPAD, par exemple. C'est hyper agréable, même si c'est une odeur subliminale. On ne le sent pas consciemment, mais inconsciemment, on est bien. Et les gens consomment moins aussi d'anxiolytiques, par exemple. On le constate et on baisse les budgets médicaments dans certains cas.
C'est franchement essentiel. Les différentes huiles essentielles dans votre livre, pour les utiliser, vous les classez par couleur, les incontournables, les complémentaires, les spécifiques. C'est quoi la différence entre toutes ces huiles ?
Alors, on a voulu changer un petit peu parce qu'effectivement, en général, c'est par ordre alphabétique. Donc, les indispensables, c'est celles qui vont être abordables, que l'on trouve facilement. Alors là aussi, je fais une parenthèse, on n'achète pas n'importe où ces huiles essentielles. Et puis surtout quand on a un conseil de bonne qualité, bio, parce qu'elles concentrent les pesticides.
Donc, sur Internet, c'est plutôt à éviter, enfin, à moins que ce soit une marque bien reconnue.
Oui, vous allez avoir quand même des conseils. Mais c'est vrai que le conseil ou la consultation, pour moi, sont indispensables. Hein, parce que justement, ce n'est pas de la poudre de perlimpinpin. Donc ces indispensables, elles vont être relativement abordables. On les trouve facilement et elles sont très documentées. Donc beaucoup, beaucoup d'études. Ensuite, on a les complémentaires qui sont soit un peu plus chères, soit moins courantes, soit avec moins d'études. Et enfin, la dernière catégorie où là, on est soit dans le luxe avec de la rose de Damas à 3€ la goutte, mais des choses où on va se faire plaisir, mais qui sont géniales, ou que nous, on constate comme efficaces, mais où il va falloir plus d'investigation, parce que le monde entier cherche maintenant sur les huiles essentielles. Ça n'est plus un usage traditionnel sans savoir.
Donc on a parlé de l'huile essentielle de citron contre le stress, mais il y a une autre huile qui pourrait être efficace, c'est celle de la lavande, notamment sur les jeunes mamans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Effectivement, alors il y a eu des essais justement en maternité, et lorsqu'on va diluer de l'huile essentielle de lavande officinale chez les petits, donc là aussi les huiles essentielles ne sont pas solubles dans l'eau, donc il faut un émulsionnant, et c'est juste 3 gouttes. Alors à l'hôpital, elles font ça dans des doses pour le café, parce que justement il y a l'émulsionnant entre l'eau et l'huile, même si ça n'est pas huileux, et on voit par exemple une augmentation du sommeil lent profond, la phase sommeil lent profond augmentée de 50% lorsqu'il aura eu de la lavande. La maman est plus cool et l'enfant est plus attentif à sa maman lorsqu'il prend un bain avec de la lavande. Et enfin, il pleure moins à 27%. Ouais. Donc forcément, ça plaît à tout le monde.
Ça me rappelle tellement mon enfance, moi, l'huile de lavande.
Oui.
Ma maman, elle en mettait partout, effectivement. Est-ce qu'on peut en donner aussi, par exemple, l'huile de lavande, l'idée, ça déstresse ces jeunes mamans, mais est-ce qu'on ne pourrait pas les donner à des patients, je ne sais pas, stressés avant une intervention chirurgicale, par exemple ?
C'est d'ailleurs utilisé, testé en pré-anesthésie. Alors justement, sous forme de stick inhaler, parce que c'est pratique et ça ne dérange personne. Et c'est très efficace pour justement réguler la tension avant l'anesthésie. C'est le gros problème. On a même fait un test dans le sud-ouest où on les a tellement rendus zen qu'ils se sont endormis. Or, il faut que l'anesthésiste les ait conscients pour les endormir.
Autre sujet, en confinement, couvre-feu, on prend un peu de poids. Est-ce qu'on pourrait imaginer certaines huiles essentielles pour agir comme un peu comme un coupe-faim? Est-ce qu'on pourrait rêver ou...
Là, c'est un conseil perso qui vous demande. Hein,
ouais. Il est très bien.
Il boulotte en ce moment.
Pourtant, il est très bien, ça ne se voit pas.
Mais j'ai un pull, c'est pour ça que ça ne se voit pas.
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il peut prendre alors, Jimmy?
Alors, on a effectivement des huiles essentielles anorexigènes. On a aussi des orexigènes qui font manger. Mais les anorexigènes, elles vont justement agir sur ce système cérébral du plaisir ou lorsqu'on va combler ce vide ou ces angoisses du confinement. Ce sera par exemple l'essentiel de pamplemousse, le citron du paradis en latin. C'est tout simple à respirer. Puis si on a vraiment des envies de sucre spécifiques, on est sur celle de géranium. Alors j'ai une copine...
Géranium pour vous, Jimmy.
Voilà.
Je crois que c'est ça.
Ça
bah,
sent
c'est
la
mieux que
rose.
Les gâteaux. Hein. Ouais, c'est mieux, c'est franchement,
clair.
Moi ça me va. Hein.
Voilà, alors moi j'ai une copine qui avait fait ça. Du coup, elle mettait la goutte de géranium sur le gâteau, ce qu'il ne faut pas forcément faire. Elle s'est tellement dégoûtée qu'elle a laissé le flacon dans le placard. Et maintenant, quand elle ouvre le placard, ça sent le géranium, elle s'en va.
Très bien. Il faut quand même savoir une petite précaution que quand on utilise ces huiles essentielles, il faut éviter de s'exposer au soleil. Pourquoi ?
Alors, les huiles essentielles d'agrumes notamment, mais aussi de Kéla et d'angélique sont dites photosensibilisantes. On s'en sert d'ailleurs en thérapeutique dans la puvathérapie des psoralènes. Donc il y en a dans la bergamote notamment. Donc là, on ne va pas au soleil entre 3 à 6 heures. Ça dépend si on habite en Polynésie ou à Paris. Mais effectivement, il vaut mieux les utiliser le soir. Sinon, on peut faire des taches ou justement des grosses, des, soit rouges, soit plutôt foncées.
Très bien. Bon, on voit que c'est complexe, hein, Jimmy. Il vaut mieux avoir effectivement des conseils et pas se lancer n'importe comment dans l'aromathérapie. C'est très intéressant. Docteur Cook-Martin, on va continuer cet entretien dans quelques minutes.
Europe
1. On revient très vite avec cette émission dans laquelle on vous dit tout sur ce que vous avez voulu savoir sur les huiles essentielles. Huiles essentielles qui peuvent nous aider à soulager certains désagréments physiques, mais qui accompagneraient aussi, selon notre invité, certains problèmes psychologiques. On y vient très vite, donc restez bien avec nous sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous et elle nous accompagne cet après-midi. C'est vous, docteur Françoise Cook-Marinier. Vous êtes docteur en pharmacie. Vous êtes également formatrice en aromathérapie et hypnothérapeute. Alors, on va maintenant voir dans cette partie, docteur Cook-Marinier, que les huiles essentielles traitent, apaisent aussi certaines pathologies liées au psychique, notamment les addictions. Par exemple, pour une personne alcoolique, il y a des huiles essentielles à utiliser qui vont faire quoi dans son corps? Ça va vraiment l'empêcher d'avoir envie de boire?
Alors, il faut déjà rappeler que les huiles essentielles à elles seules ne peuvent pas résoudre la dépendance alcoolique.
Bien sûr, hein,
ça relève d'une prise en charge quand même multidisciplinaire. C'est tellement compliqué, les addictions. Mais elles peuvent prévenir l'évolution vers une consommation addictive. Hein, donc, on aura recours donc, justement à ces huiles essentielles qui vont avoir une composition moléculaire qui va nous permettre d'effectuer une partie des effets de l'éthanol, c'est-à-dire apaisant lorsqu'il a envie de boire. Donc on peut aussi réaliser une synergie par voie olfactive en général, hein, puisque l'inhalation nous permet d'avoir un ressenti très proche du dégoût aussi parfois. Donc là, on va les dégoûter de faire ça et puis d'éviter de céder à l'envie de boire. Mais on va en général beaucoup les apaiser dans leur accompagnement.
Est-ce qu'on peut céder justement de l'aromathérapie pour peut-être se débarrasser ou aider au sevrage de d'autres addictions?
On peut effectivement...
Comme le sucre, non Jimmy, par exemple,
ouais,
ça vous intéresse?
Ou les jeux vidéo, je ne sais pas, ou le tabac, peu importe, hein, chacun son...
Oui, tout à fait. Donc de plus en plus de tabacologues utilisent effectivement des médecins, en général psychiatres ou pas, hein, mais qui sont dans les services pour addiction. Là, on peut effectivement très très bien accompagner. On a aussi des huiles essentielles encore plus puissantes, dont certaines qui pourraient, évidemment je ne les citerai pas, être des précurseurs à la fabrication d'ectasy. Donc là aussi, ça peut être très planant, mais on peut aussi les aider lorsque c'est très justement encadré avec des stick inhalers ou autres qui vont les aider à ne pas céder à la tentation.
Encore une fois, on agit beaucoup sur le stress, l'état d'anxiété des patients, comme ça pour apaiser en fait, hein, avec les huiles essentielles. On ne parle pas de guérir complètement l'alcoolisme avec ça, hein, bien sûr. Tout à l'heure, on a parlé d'une huile essentielle coupe-faim, le pamplemousse. Est-ce que vous pouvez aussi aider des personnes qui, là, pour le coup, n'ont pas juste quelques kilos à perdre, mais vraiment des troubles de l'alimentation sévères comme l'anorexie ou la boulimie? Là aussi, on peut voir du côté de l'aromathérapie?
Tout à fait. Alors, l'anorexie en elle-même, parce que l'anorexie mentale, c'est une restriction volontaire de nourriture sans forcément perdre d'appétit. Donc ça, c'est une prise en charge psychiatrique. Hein. On n'est pas
bien
là
évidemment
pour remplacer ça. L'anorexie classique, on va dire, c'est une perte involontaire plutôt parce qu'on est sous chimio ou on ne sait pas trop. Donc là, on va les aider à stimuler l'appétit. C'est même utilisé pour faire grossir des poissons, les tilapia.
Ah oui,
c'est ce que vous utilisez en aromates. Si ça s'appelle des aromates, c'est qu'il y a une huile essentielle dedans qui aide à manger la coriandre, par exemple le gingembre pour éviter les nausées, la menthe poivrée qui est connue et reconnue reconnu, puisqu'on a un médicament aussi aux États-Unis sur les colites digestives. Donc, si on digère mieux, on va manger mieux aussi. Hein, donc, on a vu le pamplemousse tout à l'heure plutôt pour restreindre. Certains hôpitaux utilisent justement des salles d'olfaction avant d'aller manger pour justement stimuler ou calmer le centre de la satiété. On le sait, beaucoup d'études.
On devrait ouvrir une à Europe 1 de salle d'olfaction, comme ça, pour avoir moins faim et moins grignoter, moi, je trouve. C'est vraiment intéressant. Jimmy, à vous.
C'est vrai que la période est quand même difficile en ce moment, psychologiquement, notamment pour les jeunes, confinement, couvre-feu, pas de perspective. Est-ce que les huiles essentielles pourraient nous aider pendant cette période un peu difficile? Puisque finalement, moi, je préfère des huiles essentielles, je le répète, à des benzodiazépines, donc pourquoi pas.
Tout à fait. On fait attention quand même. On a certains sprays assainissants que les gens utilisent beaucoup. Là, c'est un véhicule alcool, donc c'est ce qui va irriter les poumons, pas forcément les huiles essentielles. Donc là, attention aussi aux animaux qui peuvent souffrir de ça.
Oui,
on n'y pense pas. Les chats, les chiens, les hamsters et tout ça. Donc s'ils ne peuvent pas s'en aller parce qu'ils sont dans une cage, on fait attention. Donc effectivement, elles vont nous aider en complément, évidemment, des modifications des règles de vie. Et puis, on va surtout s'évader. C'est ça qui est intéressant. Si je vous fais sentir du frangipanier, du magnolia, par exemple, des huiles comme ça, ou du sapin pectiné des Vosges ou du Jura, forcément, ça va aider. Alors ça, c'est connu à l'hôpital. Les patients disent, ça me fait sortir des murs de l'hôpital ou de la prison aussi.
Ça va nous faire voyager.
Pour le
en
confinement,
fait.
C'est important. Ouais.
On voit les huiles essentielles, elles peuvent agir donc sur de nombreux maux psychiques et parfois même, elles peuvent nous aider, vous dites dans votre livre, pour des problèmes de libido. Alors, ce sont les mêmes huiles essentielles qu'on peut utiliser, que ce soit pour un homme ou une femme, d'ailleurs.
Alors justement, je tiens à préciser que le co-auteur qui s'appelle le docteur Laurent Briquet qui nous écoute, il est psychologue et sexologue.
Donc, c'est intéressant.
On en a beaucoup parlé. Alors, ce ne sont pas les mêmes huiles essentielles parce qu'on n'a pas les systèmes hormonaux identiques. Alors, chez la femme, on va avoir, pour n'en citer qu'une, l'ilang-ilang, ça veut dire fleur de l'amour.
C'est déjà exotique. Hein.
Voilà, en indonésien. Et effectivement, on appelle ça, pour s'en rappeler, le piège à homme. Donc, vous voyez, vous en mettez un petit peu. Donc, c'est très Guerlain, adoré cette huile essentielle, il en a mis dans beaucoup de parfums, parce qu'un parfum, ça sert quand même aussi à ça. Pour l'homme, ce sera plutôt par voie orale aussi, c'est pas la même voie d'utilisation. Par exemple, le gingembre, c'est très connu, qui vont justement stimuler plus. Et puis, on va apaiser la femme, il faut qu'elle soit dans un contexte de lâcher prise pour justement profiter. L'homme a plus besoin d'être stimulé. Donc, vous voyez, c'est deux contextes différents.
Alors, parfois, on peut les utiliser, ces huiles, sous forme de massage, mais quel est le rôle du massage avec l'huile essentielle? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose?
Alors, ça a été testé avec ou sans huile essentielle et on a vu les différences. On a même massé en mettant des masques à l'époque pour que les gens ne sentent pas l'odeur et on a vu la différence. Donc oui, le massage. Alors, à l'hôpital, j'en parlais, on appelle ça des touchés massages. Donc, les gens reprennent corps avec justement les parties lointaines de leur anatomie, comme les pieds, les mains. Vous avez des gens qui ne s'en rappellent pas, qui ne les voient plus. Je parlais des épaules, mais ça peut être ça aussi. Donc le massage va apporter aussi un bien-être et va faire pénétrer les huiles essentielles avec un effet un petit peu retardé puisque les graisses de la peau vont pouvoir faire une libération un petit peu prolongée au fur et à mesure d'une journée. Donc c'est très intéressant.
On va parler à présent de certains troubles dermatologiques comportant souvent une cause psychogène comme l'alopécie, l'eczéma, le psoriasis, l'urticaire. Donc l'alopécie en premier, donc la perte de cheveux, il y a vraiment des huiles essentielles qui peuvent aider à la repousse du cheveu?
Alors là aussi, tout dépend de la cause de l'alopécie. Si c'est une chimiothérapie en cours, les huiles essentielles ne seront pas assez efficaces. Par contre, après, effectivement, on va stimuler la pousse, stimuler le bulbe. On peut faire aussi une coupe énergétique, on l'a expliqué dans le bouquin. Et là encore, on retrouve l'ilang-ilang. Donc là, il faut faire attention aux deuxièmes effets des huiles essentielles qui ne sont pas forcément indésirables. Mais si on fait un shampoing à l'ilang avant d'aller travailler...
C'est les cheveux qui poussent
et la
libido au top.
C'est ça. Donc là, il faut faire attention. Si on a les cheveux gras aussi, on va pouvoir agir là-dessus. Et puis, on peut aussi faire des bains avec des huiles végétales et des huiles essentielles.
Peut-être un dernier mot, notamment sur les troubles du sommeil. On dort de plus en plus mal. Est-ce que vous avez justement une ou deux huiles à nous conseiller pour ceux qui auraient un peu des difficultés le soir à s'endormir?
Alors, on parlait de la lavande officinale. Je vais rebondir dessus. Par contre, certaines personnes n'aiment pas cette odeur de lavande officinale. Donc, chimiquement parlant, pharmacologiquement parlant, on est très proche avec le petit grain bigarade, qui est de la feuille des mini-agrumes de l'oranger amer. On connaît la fleur de cet oranger amer, qui est le Neroli bigarade. Donc ça aussi, c'est très apaisant, surtout quand on a des tristesses du passé, de l'enfance ou par rapport à ces histoires de confinement. On va avoir aussi les agrumes, la bergamote, hein, si on a besoin d'un peu de soleil pour penser, s'évader. La marjolaine à coquille, qui est un petit peu euphorisant lorsqu'on est un peu le moral en berne, ce sera aussi très efficace. Et puis la camomille, utilisée aussi en pré-anesthésie, qui est justement très apaisante et qui va nous permettre de nous effondrer sur l'oreiller pour bien dormir.
Très bien, mais écoutez, nous en tout cas on s'est pas endormi, c'était passionnant. Merci beaucoup docteur Quick Marinier d'avoir été avec nous cet après-midi. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus, je rappelle votre livre, l'aroma aromathérapie, qui paraîtra donc aux éditions Terre Vivante le 16 mars prochain. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien avec un focus sur le phimosis. Quand le prépuce au niveau du gland est trop serré, un problème assez fréquent chez les petits garçons. Quelle prise en charge pour ces enfants ? Jimmy nous dira tout. A tout de suite sur Europe 1. Votre émission Santé, bien-être, sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi. Et à présent, on va parler du phimosis, un problème qui peut toucher le prépuce des petits garçons dès la naissance. Et ce qui a motivé cette séquence, c'est cette question d'Elsa. Elle a 29 ans, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'aurais une petite question pour vous. Alors, j'ai mon bébé de 10 mois qui a, semble-t-il, un phimosis selon sa pédiatre. Même si elle me rassure, ça m'inquiète quand même un petit peu. Elle a évoqué une éventuelle opération. Alors, est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus ? Et est-ce que ce n'est pas trop risqué comme intervention ? Merci pour votre réponse.
Jimmy, on va commencer par un petit rappel anatomique. Le phimosis, c'est quoi concrètement ?
Alors, pour faire très simple, c'est le prépuce du gland qui va être trop serré. Ça correspond à un rétrécissement, ce qu'on appelle une sténose de l'orifice du prépuce, qui va empêcher la rétraction complète du prépuce. C'est tout simplement le fait qu'on n'arrive pas à décaloter un petit garçon.
Bah justement, au passage, le petit rappel pour les parents qui ont des petits garçons, même des bébés, enfin qui grandissent même jusqu'à 2, 3, 4 ans, on ne force plus aujourd'hui, c'est plus conseillé de forcer le décalotage.
Non, exactement, on laisse le zizi tranquille pour plusieurs raisons. Alors, il y a de façon naturelle des adhérences qui vont se former et ces adhérences vont faire qu'il est quasiment impossible de décaloter un petit garçon à la naissance.
C'est normal en fait, le phimosis de naissance, quoi, on va dire.
Il est normal, ouais. La majorité des nouveau-nés ont un phimosis. C'est 96% des nouveau-nés.
On ne peut pas décaloter.
On ne peut pas, donc on n'y touche pas. Et on sait que dans la première année de vie, ça va s'améliorer. Ce qu'on sait, c'est qu'à un an, c'est simplement 50% des enfants qui vont avoir un prépuce rétractable. Ça veut dire que la moitié des enfants, eh bien, on ne peut pas le faire et donc on les laisse tranquilles.
À un an, on décalote toujours pas.
Exactement. En revanche, on sait qu'à 3 ans, 90% des enfants vont pouvoir être décalotés. Mais d'une façon naturelle, il faut bien comprendre qu'un enfant, il va tirer sur son zizi. Il va avoir des érections nocturnes, notamment donc du coup la nuit. Eh bien, ça va détacher ses petites adhérences et naturellement, le décalotage va se faire. Et parfois, lorsqu'on fait le bain, on va essayer de nettoyer tout doucement. Et donc, on ne force jamais et on ne décalote jamais un petit bébé ou un petit garçon.
En revanche, donc, il y a le phimosis qui va être plus pathologique. À partir de quand des parents, justement, doivent s'inquiéter d'un petit garçon qui ne décalote pas ?
Alors, tout d'abord, ce n'est pas très grave, de toute façon. Mais à partir de 3 ans, on considère qu'il faut commencer à se poser des questions.
Consulter,
et certains
ouais.
poussent un peu plus loin le curseur, c'est 6 ans. En revanche, on sait que le phimosis va toucher globalement 1% des adultes. Donc, c'est assez rare, mine de rien. 99% des hommes peuvent se décaloter de façon tranquille.
Si ça, pour le 1% dont vous parliez, qui vont finir par avoir ça, effectivement, est-ce que ça peut engendrer des complications ?
Oui, c'est essentiellement dans la vie sexuelle. Hein, ça va entraîner des douleurs, notamment lors de l'érection, et ça va perturber du coup les rapports sexuels. Et puis on sait que lorsqu'on a ce phimosis de façon répétée, ça peut entraîner l'inflammation qu'on appelle une balanite, qui va être chronique. Et
une
qui peut...
balanite.
Une balanite, exactement.
J'ai compris une bananite, excusez-moi.
Non, c'est rien à voir avec la banane. Bon, il y a une ambiance de banane en tout cas. Mais voilà, c'est une inflammation locale.
Donc, j'avais pas bien compris, excusez-moi. Alors, quand on a ça, Jimmy, le phimosis, effectivement, et qu'il est pathologique, et qu'on a un enfant à plus de 5-6 ans, on fait quoi ? Qu'est-ce qu'on propose ? Et même pour l'adulte, d'ailleurs, hein, s'il n'a pas été traité dans l'enfance.
Deux traitements possibles. On traite avec des corticoïdes sous forme de crème, notamment chez l'enfant. On va mettre ce qu'on appelle du bêta-métasone 2 fois par jour pendant au moins 4 semaines. Et dans 90% du temps, eh bien, le phimosis disparaît et l'enfant peut être décaloté. Et évidemment, lorsque ça ne marche pas, on peut proposer la circoncision. On sait que la circoncision, c'est l'intervention chirurgicale la plus fréquente au monde.
Ah oui.
30% des hommes sont circoncis. Je vous laisse sur cette information.
Ah bah merci, Jimmy. Merci pour ces précisions. Et donc, avec la circoncision, on peut régler ce problème. Merci.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour la chronique sexo, c'est donc bien sûr Catherine Blanc qui nous rejoint en studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, il va falloir répondre à la question envoyée par mail par Tony. Il nous dit la chose suivante, avec ma copine, on est prêt, on veut faire notre première fois ensemble. Mais de mon côté, j'ai des craintes surtout de ne pas être à la hauteur. Comment ne pas tout foirer ? Bon, c'est quand même un grand classique, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de jeunes gens comme ça qui posent des questions sur la l'aube de la première fois. Avoir des angoisses, c'est tout à fait normal.
Bien évidemment que c'est normal, mais parce que c'est aller explorer un univers et des compétences qu'on ignore totalement. Et que, évidemment, que s'ils se disent prêts, c'est que ça fait déjà un moment qu'ils tournent autour de ce sujet, qu'ils se sont choisis en fonction de cette compétence à pouvoir partager cette intimité et notamment leur inquiétude. Donc là, ils se sentent prêts à passer le pas. Pour autant que Tony se rassure, elle est tout aussi inquiète. Elle s'appuie sur la qualité de la relation pour lui faire confiance, mais elle est aussi dans la peur de ne pas y arriver, d'avoir mal, d'être nunuche ou que sais-je. De même que lui, la peur de ne pas être à la hauteur.
Ça, c'est souvent ça les garçons.
Hein, je dirais à la grandeur, parce que c'est pouvoir bander, rester en érection, ne pas perdre cette érection pour une éjaculation qui viendrait trop rapidement.
Des questions autour de la performance quand même souvent.
Oui, parce qu'ils se disent et c'est très légitime, ils se disent que la sexualité, c'est pénétrer et qu'il faut être capable de pénétrer et d'y rester et de faire jouer une partenaire. Alors, rendons-nous à l'évidence que dans la réalité, il va être surtout question de bander, pénétrer et pour elle, accueillir. La notion de plaisir, la notion de jouissance et qui plus est d'orgasme,
ça se peaufinera
avec le temps, absolument, Mélanie.
Oui, il faut rassurer Tony, les premières fois, on est mauvais, quoi qu'il arrive. Si on prend la première fois qu'on a conduit une voiture,
c'est bien de le reconnaître, Jimmy.
Oui, la première fois qu'on fait un gâteau au chocolat, il est raté,
non,
mais c'est
moi,
pas
jamais.
Grave.
C'est toujours bon, les gâteaux.
Oui, bon, à part Mélanie qui ramène toujours, c'est la première de la classe, mais peut-être, je vous laisse témoigner d'ailleurs pour le reste, hein, Mélanie, mais il faut rassurer, on n'est pas très bon les premières fois.
Non, et heureusement, parce que effectivement, on se débarrasse dans un premier temps de nos premières inquiétudes, on tente l'aventure, on est un peu gauche, un peu maladroit, un peu tremblotant, un peu ambivalent. Et c'est ça qui est charmant a posteriori. Alors évidemment, quand on est dans la situation, on se trouve épouvantablement mauvais, on se trouve honteux le cas échéant. Mais évidemment, on ne peut que rassurer Tony en lui disant que nous sommes tous passés par là en effet, et avec le recul, c'était charmant. Ce n'est pas une parole de gens qui ont passé le guet, qui sont sympathiques de proposer que ce ne serait pas grave, mais eux ont passé le guet. C'est qu'ils se souviennent eux-mêmes de toutes ces imperfections, de toutes ces approximations et finalement des tas de petits ratés qui ont fait notre humanité et qui nous ont poussés justement à améliorer, comprendre, chercher, découvrir. C'est bien parce que nous n'y arrivons pas que nous améliorons notre chemin. Si on arrivait tout du premier coup, nous serions simplement imbus de nous-mêmes, dans l'arrogance de nos croyances et dans le jugement de l'autre qui ne serait pas à notre hauteur. Heureusement que nous sommes un peu renvoyés à notre humanité et à nos manquements personnels.
Catherine, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à Tony et sa copine, donc, qui ont un petit peu de stress, c'est normal, des craintes pour cette première fois? Il y a les mollos, la première fois, si c'est pas génial, ça on a compris, c'est pas grave, c'est normal, c'est même un grand classique. Et puis même si la première fois, on va pas au bout, c'est pas grave, on recommencera, enfin, il y a les tranquillement.
Bien sûr, et ça la rassurera d'ailleurs. C'est on y va pas à pas. Tu me dis quand...
si on doit arrêter, on arrête.
Voilà, et ça pour toi, ça vaut pour toi et ça vaut pour moi. Et on a suffisamment de confiance et de tendresse l'un pour l'autre, si on n'a pas osé prononcer les mots amoureux, pour y aller tout en douceur. Et justement, on sait que c'est entre toi et moi que personne autour de nous ne le saura et nous avancerons petit à petit. Donc, dis-moi si tu es inquiète, ce qui permettra qu'elle réponde, bien sûr. Et toi, dis-moi si tu es inquiet.
Et on fait bien ce qu'on fait souvent. Donc, en fait, il va falloir s'entraîner tout simplement pour être meilleur. Donc, on est mauvais au début et puis ça s'améliore, quel que soit le sujet d'ailleurs.
Absolument, absolument. C'est cela qui est chouette, c'est que on récidive et récidivant, on voit qu'on fait des pas à chaque fois un peu plus grands. Souvenons-nous, quand nous avons appris à marcher, on s'est émerveillé de pas qui ressemblaient plutôt à un culbuto. et pourtant, on est tous devenus des marcheurs, des coureurs. On saute joyeusement, on dévale les escaliers sans regarder les marches.
C'est pareil pour la sexualité.
Et c'est pareil pour la sexualité.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Et je vous dis donc à demain, même heure, rendez-vous à 15h.
C'était Sans rendez-vous avec Cyclamed. Hors période de confinement, rapportez en pharmacie vos médicaments non utilisés. Qu'ils soient périmés ou non, Cyclamed les collecte et les valorise. Plus d'infos sur cyclamed.org.
Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern et Mathieu Noël. Ils vont nous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Vous me connaissez Mélanie ? Je n'ai peur de rien, c'est ce que vous aimez chez moi, c'est ce que vous aimerez chez nous.
Oui, nos personnages du jour. Des personnages qui n'ont eu peur de rien. Le chevalier Bayard, chevalier sans peur et sans reproche. Je vais vous parler aussi de Marie Marvin. Ah oui, elle n'avait pas peur de rien, elle. Et vous, de qui vous allez nous parler ?
Connor McGregor. Ça vous dit quelque chose, ce nom ?
C'est un type qui fait de la fight.
Il fait de la fight. Version approximative, d'accord. Il pratique l'ultimate fighting. C'est une légende de ce sport. Oh. Un Irlandais bourru, trapu, invincible.
Ça va donner des coups, hein, dans Historiquement Vôtre aujourd'hui. On sera bien sûr à l'écoute et vous aussi, restez sur Europe 1. Hein.